bien, bonjour à tous. Voilà, ça, oui. Donc, bonjour à tous, à ceux que je n'aurais pas vu. Un jour, un ami est venu me voir à la maison. Il avait un projet. Il voulait faire une statue de terre pour l'exposer lors d'un comice agricole dans notre village. Et ce jour-là, il me demanda si je voulais servir de modèle. C'est lorsqu'il m'a dit que cette œuvre serait éphémère et que les intempéries la détruiraient petit à petit que j'ai accepté. Lorsque j'ai vu le résultat, je n'ai pu m'empêcher de me rappeler ce verset biblique qui va être illustré par une photo qu'on va vous projeter, si on y arrive. C'est pas grave, ça va venir. Par un verset biblique que l'on trouve dans Genèse, chapitre 2, au verset 7. C'est pas grave, ça ne vient pas. Et ce verset dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oula. Vous pourrez voir le haut? Non, dans l'autre sens, voilà. Voilà. C'est ce que mon ami a fait. Voilà. Et cet ami, qui est sculpteur, hein, puisque pour arriver à faire cela, je pense que faut avoir l'habitude de faire de la pâte à modeler de temps en temps. Mais cet ami, m'a rappelé ce verset, et on peut dire que Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre. C'est vrai, c'est ce qui est représenté là. Mais la seule et la grande différence entre Emmanuel Moreau, le sculpteur qui fit cette statue, et Dieu, eh bien, c'est que Emmanuel aurait pu souffler dans les narines de sa création des jours et des jours, des mois et des mois. Celle-ci serait restée que de la terre, rien que de la terre, toujours de la terre. Et jamais la vie n'aurait pu prendre vie dans cette statue pourtant si réaliste. On va arrêter là sa statue, puis on ne va pas passer la deuxième de toute façon. C'était simplement la photo de l'ami qui a fait la statue. Voilà, mais non, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de l'argile. De la terre lorsqu'elle est dans les mains du potier et que celui-ci en fait quelque chose. C'est l'une des images les plus puissantes dans la Bible. La référence au potier et à l'argile apparaît à plusieurs occasions dans ce livre saint, et la signification de ces histoires applique très souvent une démarche spirituelle. Nous trouvons cela dans Jérémie 18, les 6 premiers versets, où il est dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors c'est vrai que dans cette histoire, le Seigneur fait référence à Israël, qui est comme de l'argile entre les mains du potier. Mais je pense que l'on peut, sans trahir l'esprit du texte, le rapporter à l'individu. À l'individu qui, dans ce cas-là, devient un vase, une pièce unique. Une pièce qui, bien qu'unique, n'est pas forcément pure. Une pièce qui a en elle des défauts. J'ai un ami qui, pendant plusieurs années à Sanceau, a tenu un atelier de poterie. On l'appelait Doudou ou Dominique. Et Hélène, qui est souvent parmi nous, l'a très bien connu. Il faisait des pièces autour. Et j'ai passé de longs moments à le regarder faire ses pièces. J'admirais la façon dont les vases prenaient forme, rien qu'à la position et à la pression de ses doigts sur la matière. Mais pour que son vase soit terminé et de bonne façon, il fallait absolument que la terre soit pure. Si par malheur le moindre petit corps étranger, un tout petit gravier, un petit morceau de bois ou toute autre chose se trouvait dans la masse, eh bien celui-ci, lors du tournage, se trouvait à heurter les doigts du potier et tout s'effondrait en masse informe sur le tour. Mon ami devait rechercher cette impureté, la retirer et tout recommencer afin d'achever son œuvre. Nous les chrétiens, nous sommes ainsi comme un vase entre les mains du divin potier. Et que cela nous plaise ou pas, nous devons nous laisser former et accepter que soient retirées de nous nos impuretés, pour que le travail pour lequel il nous a mis à part, selon son bon désir et sa volonté, comme il est dit, il en refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire, nous dit le texte. Voyons maintenant deux textes. Le premier dans Romains 9, 20, 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil ? Là encore, la Bible nous parle de l'espèce humaine. Elle parle de nous. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qui est dit l'est d'une manière brutale mais ferme. Ce n'est pas le vase qui décide à ce à quoi il servira. C'est le potier qui en décide selon des critères qui lui sont personnels et les besoins du moment. Le potier ne fera pas un vase destiné à recevoir des fleurs si le besoin est de faire une soupière pour servir le repas, ou une cuvette devant servir à la toilette. Et cela doit être la même chose dans nos églises. Certains peuvent être mis à part pour la prédication, d'autres pour les études bibliques, bien souvent une grande majorité pour la prière, d'autres pour la libéralité, pour du travail social, pour la louange. Chacun a son rôle, chacun a son travail à faire. En Belgique, en 1970, j'ai connu une chrétienne qui était chef infirmière et responsable d'une école de formation d'infirmières, et cette personne me disait « Dans l'Église, le travail que je fais depuis toujours, c'est du ménage, et c'est de servir et de faire la vaisselle lors des repas paroissiaux. » Elle était heureuse de faire ces tâches, qui en général nous rebutent pour la plupart d'entre nous. Le deuxième texte est dans Ésaïe 45, 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre n'a point de main. Parmi vous, quelqu'un a-t-il déjà travaillé l'argile sur un tour ? Pour mon ami de Sanceau, cela paraissait tellement facile. Mais essayez et vous verrez que cela exige des mains expertes et qu'une formation est nécessaire. La première fois que vous commencerez à faire aller le tour, votre morceau d'argile risque fort de se retrouver sur le plancher. Et même si vous arrivez à façonner un tant soit peu l'argile, vous verrez que votre premier vase aura une forme assez laide. Et cette laideur, ce sont vos mains qui l'auront créée, ce sont vos mains qui auront façonné cette forme bizarre. Dans ces versets, cette histoire semble nous dire « Ça, c'est toi. Cette argile, c'est toi. » Ou bien encore « Ce vase raté, c'est moi. Tout est à refaire dans ma vie. L'argile rebelle qui ne se laisse pas modeler, c'est moi. » Ou même, on pourrait se dire bah, « Après tout, si je suis comme ça, c'est que Dieu m'a fait comme ça. » Mais dans ce cas, nous risquons de tomber dans un fatalisme qui non seulement nous maintiendra dans notre situation où nous sommes, mais qui de plus risque de fermer des portes et faire que Dieu ne pourra plus nous remodeler comme bon lui semble. Et là, ce sont des moments difficiles qui arrivent pour ceux qui contestent. Nous disons cela dans Ésaïe 45, verset 9. Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un tesson conteste avec les tessons de la terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré ? Et à sa mère, qu'as-tu enfanté ? Ces versets décrivent l'attitude très courante aujourd'hui des hommes qui nient l'existence de Dieu et pensent n'avoir de compte à rendre à personne. Ils ferment les yeux sur l'évidence de la création et celle-ci témoigne de la sagesse et de la puissance du Créateur, en particulier dans la créature privilégiée qu'est l'homme. Leur folie est comparable à celle d'un vase de poterie qui affirmerait qu'il n'a pas eu de potier pour le former. De plus, il faut bien nous dire que le Créateur n'a aucun compte à rendre à sa créature. Qu'il s'agisse de ce que nous sommes comme l'ouvrage de ses mains ou de ce qu'il accomplit dans ses volontés envers nous. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes, nous est-il dit dans Job 33, verset 13. Gardons humblement notre place devant le Créateur. Dieu nous invite ce matin, comme il a invité Jérémie, à se rendre à la maison du potier. Il désire nous montrer ce qu'il veut faire de nos vies. Nous devons nous considérer comme de l'argile. À une différence près, c'est que nous sommes de l'argile avec une volonté. Nous ne sommes pas un matériel inerte. Et cela fait une différence considérable. En effet, bien que Dieu puisse avoir des plans merveilleux pour notre vie, eh bien nous pouvons mettre obstacle à ces plans à cause de notre liberté, à cause de notre volonté. Nous pouvons devenir de l'argile dont le potier ne peut rien faire. Si vous parlez avec des potiers, ils vous diront tous qu'il y a beaucoup d'argile dont on ne peut rien faire, et que bien au contraire, les argiles bonnes à la création sont très peu nombreuses. Il y a donc plusieurs genres d'argile qu'il est difficile, voire même impossible de modeler. Et nous allons les passer un peu en revue maintenant. Il y a de l'argile semblable à des eaux secs. C'est une argile qui, à un moment donné, était peut-être douce, modelable et docile, mais qui, oubliée, seule, posée dans un coin, s'est desséchée et est devenue dure. Dans ce cas, le potier n'a qu'une solution, c'est de prendre cette argile, de la plonger dans un récipient plein d'eau et d'attendre le temps qu'il faudra pour que celle-ci se ramollisse et redevienne, après avoir été pétrie, à nouveau façonnable. Il en va de même pour certains chrétiens qui ont pris de la distance avec l'Église. Pourtant, ces croyants, lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu, au début de leur conversion, ils étaient devenus doux comme une argile, modelable. Par leur baptême, leurs vies furent placées dans les mains du potier. Mais après un certain temps, leur vie spirituelle s'est desséchée. Leur vie et leur cœur sont devenus durs et secs. Plus rien ne pouvait ni pénétrer ni attendrir leur vie. Pourtant, en venant à l'église, ils entendent prêcher, mais rien de cela n'a plus d'effet sur leur vie. Ils se sont fermés. Ils se sont imperméabilisés aux vérités spirituelles. J'ai connu beaucoup d'amis qui, après avoir fait un bout de chemin avec le Christ et avoir vécu des choses merveilleuses, même pour certains, après avoir témoigné de façon magistrale de l'amour de Dieu, brusquement sont disparus dans la nature pour des raisons qui souvent n'étaient que de pauvres justifications. Ces amis sont devenus comme des eaux secs. Parfois même, ils tournent en dérision ce qui fut l'objet de leur premier amour. Cela m'attriste. Pour eux, le péché n'est plus appelé péché, le mal est appelé bien. Chez eux, plus de culpabilité, plus de repentance. Les souffrances que Jésus a endurées ne les touchent plus, ne touchent plus leur cœur. Ils deviennent ceux dont nous parle l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 2, les versets 20 et 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautré à nouveau dans le bourbier. Il devient très très difficile de parler à nouveau de Jésus à ces personnes qui connaissent la vérité et qui sont tombées, qui se sont détournées. Souvent leur cœur est endurci, leur cœur est rebelle, et leur condition est pire de celle qu'ils vivaient avant leur première rencontre avec le Seigneur. Pour pouvoir intervenir de façon efficace, il faut que leur cœur redevienne modelable, adouci, malléable. Quand les chrétiens deviennent semblables à des eaux secs, Dieu ne peut absolument plus rien faire avec eux. Ils sont de l'argile usant de leur propre volonté. Le potier ne peut plus façonner le vase à son goût. Dans ce cas, bien souvent, il n'y a qu'une seule solution pour que ces vases puissent être à nouveau utilisés. Ce vase doit être complètement écrasé, brisé et trempé aussi longtemps qu'il le faut dans l'église. Alors le processus de remodelage pourra recommencer. Dieu pourra reprendre les choses en main. Parfois, on m'a reproché de parler souvent de l'association Siloé. Mais dans cette association et dans nos réunions, il est courant de voir des amis tenir tout un temps. Et puis soudain, sans que rien ne le laisse prévoir, certains rechutent. Et même parfois, certains rechutent plusieurs fois. Puis un jour, ils se mettent debout et ils tiennent jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons coutume de dire qu'il faut pour certains qu'ils touchent le fond. Comme quelqu'un qui se noie doit toucher le fond de la rivière afin de pouvoir donner le coup de talon qui le fera remonter à la surface. Il faut souvent ne plus pouvoir rien faire par soi-même pour remettre tout entre les mains de Dieu, pour lever à nouveau les yeux vers le Seigneur. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est lorsque l'argile manque d'humilité. Il s'agit d'une argile qui existe, mais qui ne peut pas être utilisée parce qu'elle est trop poussiéreuse. Elle est juste assez douce pour exister, mais pas suffisamment humide pour être mobilable. afin que le potier puisse s'employer. C'est la condition de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont seulement assez de rapport avec Dieu pour savoir qu'ils sont sauvés et pardonnés. Ils en font juste assez pour s'assurer qu'ils seront sauvés au retour du Seigneur. Mais laissons nos vies tremper dans le bain du Saint-Esprit et s'en imprégner. Ainsi, nous pourrons et nous deviendrons une argile malléable, docile. Nous pourrons devenir un vase d'honneur pour l'Éternel et il pourra nous utiliser selon sa volonté. Non seulement nous serons sauvés, mais nous porterons du fruit. Pour terminer, arrêtons-nous sur un passage de la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 4. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ici, le mot argile est remplacé par le mot terre, mais c'est tout à fait le même sens. Et dans tout cet épître, l'apôtre Paul parle de son ministère qui était contesté par certaines personnes à Corinthe. Au début du chapitre 4, il parle des révélations divines qu'il avait reçues afin de les transmettre à d'autres. Nous y voyons l'effet qu'elle avait produit dans son âme et la manière dont elle en rayonnait pour éclairer autour de lui. La lumière qu'il faisait briller était en fait la lumière de l'Évangile et de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Pour ceux dont les pensées avaient été aveuglées par Satan, cet évangile était voilé et ces gens demeuraient dans les ténèbres. Paul proclame qu'heureux sont ceux qui se laissent éclairer par cette lumière divine. Dieu dépose une lumière dans le cœur de ses messagers afin qu'elle luise au dehors pour le faire connaître. Quel trésor dans des cœurs humains! Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. Il faut qu'il en soit ainsi, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas des hommes. Qu'il est immense le contraste entre la faiblesse des vases et la valeur du trésor qu'ils contiennent. Ainsi, il est manifeste que la lumière qu'ils font briller autour d'eux et en éclaire les autres, rien ne vient des vases, rien ne vient des hommes, mais que cette lumière en totalité vient de Dieu. Dans les versets qui suivent, l'apôtre décrit les circonstances difficiles par lesquelles le Seigneur l'a fait passer. Il a réalisé la médiocrité des ressources humaines, mais il s'est rendu compte de la valeur et de l'efficacité de Dieu. Il portait toujours, partout dans son corps, l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifeste dans son corps. C'est ce qu'il proclame au verset 10, ou ce qu'il nous dit encore ailleurs. « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Pour terminer cette prédication, nous laisserons la conclusion et le mot de la fin à Jérémie. Le potier fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ? Dit Dieu. Beaucoup à réfléchir. Emmenons ça à la maison. Pensons-y. Regardons ce que nous sommes véritablement devant Dieu. Est-ce que j'accepte de me laisser façonner, pétrir, j'allais dire manipulé, quelque sorte, par Dieu, afin de devenir ce qu'il veut que je sois. Non pas quelqu'un qui décide de ce qu'il fera pour Dieu, mais quelqu'un qui fera ce que Dieu a décidé pour lui, car cela est la finalité de nos vies chrétiennes. Amen. Quelqu'un veut prier ?
C'est vrai, Seigneur, que nous pouvons être comme l'argile entre les mains du potier. C'est vrai que nous voulons nous laisser manipuler par toi, c'est-à-dire nous laisser modeler par tes mains, afin d'accomplir ta volonté dans nos vies, parce que c'est ça qui donne un sens à nous. Merci, effectivement, Seigneur, de continuer, s'il te plaît, ton travail de modelage, de purification aussi, d'enlever tout ce qui n'est pas modelable par toi, tout ce qui ne te convient pas en nous, et aussi de faire de nous une argile bien ductile, bien humide, remplie de ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons souples sous ta main, afin que nous puissions modeler par toi. Merci, Seigneur, de faire de chacun d'entre nous, de tous ceux qui veulent se lever pour toi ce matin, ici, de faire de chacun d'entre nous une argile docile entre tes doigts, un outil pour tes projets, un moyen que tu utilises. Nous voulons vraiment être tout entiers à ton service, afin de glorifier ton nom dans nos vies. Amen.
Amen. Alors, je pense que Olivier va procéder aux annonces. Et j'aimerais bien que pour terminer le culte, on puisse chanter « Jésus, tu es le potier et je suis l'argile ».